RCF.
Un cycle se clôt avec l'ouvrage « Écrire du côté des animaux » publié sous la direction d'Éric Baratet aux éditions du Panthéon Sorbonne. 5 volumes, c'est le 5e volume d'un cycle de 5. Sous la direction de l'historien Éric Baratet, ont travaillé une 20aine de chercheurs, je crois, et ils rassemblent les sciences du vivant ainsi que les sciences humaines. 5 volumes qui ont abouti à un travail riche, approfondi, universitaire, certes, mais aussi concret. Je le dis pour nos auditeurs qui auraient un peu peur d'aborder l'ouvrage. Il y a là une multiplicité, une diversité d'approches qui vont de l'éthologie en passant par l'histoire, en allant également à la linguistique. Et bien évidemment, il y a cette diversité des approches qui se sont croisées sous le mode de diverses contributions. Ce qui me semble important à signaler, c'est que c'est une entreprise collective dont les objectifs sont de décloisonner les concepts, mais aussi de les désanthropiser. Éric Baratet nous précisera tout à l'heure ce que l'on peut entendre par ce concept assez savant. Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Vous êtes une voix presque familière pour les auditeurs de Dialogue. Vous êtes venu déjà à plusieurs reprises nous parler de ce travail au long cours, si je puis dire, au long cours sur le plan, je dirais, du travail collectif mené avec ces chercheurs, mais aussi votre travail personnel que vous conduisez depuis de nombreuses années concernant, est-ce que je peux dire ainsi, la condition animale ou l'approche de la condition animale par les humains ou par le savant qu'est l'historien que vous êtes. Qu'en est-il aujourd'hui, au terme de ce travail, Éric Baratet ?
Eh bien, écoutez, d'abord, je viens toujours avec plaisir, hein, parce que votre émission est toujours riche et intéressante. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un travail sur le très long terme. Hein. Personnellement, j'ai commencé dans les années 80, donc vous voyez, je n'ose plus compter le nombre de décennies.
Si j'ai insisté là-dessus, c'est bien pour faire comprendre à nos auditeurs que on n'a pas affaire à un ouvrage ou à des ouvrages un peu anecdotiques qui s'intéresseraient à la condition animale, comme on peut en avoir ici et là. C'est vraiment un travail très approfondi et qui croise justement des approches extrêmement savantes.
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu, je me suis aperçu, mais d'autres aussi, qu'on ne pouvait pas parler des animaux avec simplement une ou deux disciplines. Par exemple, l'éthologie que vous avez mentionnée, qui est la science du comportement des animaux, c'est une science extrêmement intéressante, qui apporte beaucoup de choses, mais qui a des manières de faire, des manières de voir, propres à elle, et avec des impasses ou des choses laissées de côté, dont les éthologues sont eux-mêmes conscients d'ailleurs, hein, au fil des ans. Et donc l'idée, c'était de finalement essayer de croiser les sciences, d'amener d'autres regards scientifiques pour enrichir le regard sur les animaux et finalement montrer comme cela, avec ce regard enrichi, bah, que les animaux eux-mêmes sont des êtres beaucoup plus riches qu'on ne dit. Et par exemple, faire qu'un éthologue travaille avec un sociologue, eh bien, ça permet d'apporter des choses auxquelles ni l'un ni l'autre n'avait pensé. Hein, simplement en échangeant sur leurs concepts, leur manière de faire. Donc en prenant un cas concret, par exemple, sur la sociologie des chevaux, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur voir comment les chevaux vivent en groupe. Donc, il y a l'éthologue qui a eu l'habitude de travailler de telle manière. Et puis, il y a le sociologue qui travaillait jusqu'à présent sur des humains avec ses méthodes et qui accepte de dire ben, pourquoi pas employer ces méthodes aussi pour les animaux. Et on s'aperçoit que ça marche bien. Alors évidemment, il faut des gens de bonne volonté des deux côtés, ce qui n'est pas fréquent.
Hein.
Il faut
et bien... pas facile. Et chacun ayant son champ, son précaré, ses prérogatives.
Oui, mais quand on veut, on peut. Le problème, c'est que beaucoup de collègues ne veulent pas.
Sortir de ce domaine réservé.
Oui, c'est très difficile. Chacun est dans son domaine. C'est tellement plus simple. On a ses méthodes, on a ses concepts, et puis on déroule. Il y a une forme de confort intellectuel, hein, et sortir de sa discipline, aller voir ce que font les autres ou discuter avec d'autres, c'est très fructueux, mais l'expérience m'a montré, ne serait-ce qu'avec ces 5 livres, que bon, ça concerne encore qu'une minorité de collègues, hein, malheureusement. Mais bon, je pense que, alors j'espère, nous espérons, l'équipe, que ces volumes vont faire modèle, hein, et vont montrer qu'on peut faire quelque chose avec ça. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de scepticisme. Hein, à quoi cela sert-il ? Il y a aussi chez beaucoup de collègues l'idée que finalement la science, sa science à soi, est plus importante que l'objet que l'on étudie. Mmh. Et donc on reste dans le rail de sa science. On peut étudier avec ce rail 36 objets. Tant pis si l'objet en question, on l'étudie à moitié.
Ou si on caricature, peut-être, parfois.
Ou on peut caricaturer, tout à fait. Et donc, la science est plus importante que l'objet. Or, là, je crois que c'est l'inverse.
C'est l'animal qui est mis au centre, en l'occurrence.
L'objet d'étude, le sujet d'étude, même, je devrais dire, pour un animal, qui est beaucoup plus important que la science en question. Et là, il y a un véritable partage de frontières entre collègues, hein, entre ceux pour qui le sujet est plus important que la science et ceux pour qui la science est plus important que le sujet. Donc si vous considérez que le sujet est plus important que la science, vous allez avoir envie d'en savoir plus sur ce sujet, d'enrichir les connaissances.
Et de varier les approches, donc.
Un peu comme si on tournait autour du sujet avec des appareils photographiques différents, hein. L'un c'est la sociologie, l'autre c'est l'éthologie, l'autre c'est l'histoire, etc. Et puis on discute ensemble. Et évidemment, si on prend, tout le monde va comprendre, si je tourne autour d'un humain en prenant photo de tout autour de lui, ben, j'aurai une image bien plus complète de cet humain que si je le prends simplement de côté ou de face.
Ou de face, bien sûr. Hein.
Et bien c'est sûr. Pareil. Mais encore faut-il privilégier le sujet à la science, et ça, ce n'est pas le cas pour
beaucoup. C'est encore un travail en cours, pourrait-on dire.
C'est un travail en cours, oui. Alors nous espérons, comme je le disais, que ça va faire modèle, mais il faut aussi du temps. Hein. Les chercheurs ne sont pas forcément des révolutionnaires. Hein. Il y a beaucoup de conservatisme. Hein.
En tout cas, il me semble, à revenir sur ces 5 volumes et ceux que vous-même avez écrits à titre personnel, je pense notamment à Biographies animales, entre autres, il me semble que l'image hiérarchique, la représentation hiérarchique dans laquelle on voit l'animal tout à fait en bas et l'homme surplombant au sommet, cette idée-là commence, allez, utilisons un mot à la mode, cette idée-là est quelque peu déconstruite aujourd'hui par cette diversité d'approches, et qu'on ne peut plus considérer l'animal comme un être, même s'il est considéré comme noble, on ne peut plus le considérer comme rudimentaire, sauvage, au sens propre du terme, s'opposant à l'humain qui aurait le privilège du langage et de l'écriture.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est l'un des motifs de refus de collègues qui ne veulent pas, par exemple, qui sont des sociologues et qui ne veulent pas employer la sociologie pour les animaux. La sociologie est faite pour les humains. Pour les animaux, l'éthologie, ça suffit bien. Et en fait, comme on est en train de changer de vision, hein, cette vision pyramidale avec l'homme tout en haut et puis les animaux et puis en dessous encore plus rudimentaire les végétaux.
Les végétaux, oui.
Cette vision-là, elle n'est pas, elle est infirmée par la science. La génétique actuelle nous montre que c'est pas du tout le vivant, c'est pas du tout une pyramide, c'est un buisson à partir du dernier ancêtre universel commun. Tous les vivants sont partis, ont évolué dans tous les sens, hein, et ont évolué d'une manière extrêmement riche. D'ailleurs, je trouve que c'est une vision beaucoup plus intéressante. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'Église. Chrétiennement, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça montre finalement, pour celui qui croit en la nature créée par Dieu, ça montre à quel point cette nature est d'une richesse absolument exceptionnelle parce que c'est parti dans tous les sens. Avec
cette création, finalement, cette création, est-ce qu'on peut utiliser ce mot?
Et chaque vie a été créée d'une manière différente, avec des spécificités, des richesses. Ce qui fait que, eh bien, il ne faut pas regarder les animaux à l'aune de l'homme. Il faut regarder les animaux à l'aune de leur propre richesse. C'est ce que fait quelqu'un comme François Dessy.
Oui, alors justement, c'était un peu la question que je voulais vous poser, Éric Baratet. Vous parliez des difficultés à secouer le milieu de la recherche, mais ces recherches que vous conduisez avec éthologues, historiens, sociologues, et j'en passe, est-ce qu'elle se heurte aussi à une représentation, on va dire, chrétienne de la création? Ou bien est-ce qu'il y a des points de rencontre ou même d'enrichissement, d'ouverture de nouveaux horizons?
Alors maintenant, oui. Maintenant, oui, il y a de plus en plus il y a des théologiens maintenant qui s'intéressent de plus en plus aux animaux. Il y a eu la faculté catholique de Paris a monté plusieurs colloques là récemment sur la condition animale, hein, ça va sortir en publication. Maintenant, il y a tout à fait une réflexion. Elle est encore minoritaire, oui. Hein, très minoritaire, mais il y a une réflexion. Alors, c'est vrai que longtemps, ce qu'on pourrait appeler une vision chrétienne, cette vision pyramidale, on disait c'était la vision chrétienne, oui, a fait un frein. Le problème, enfin c'est pas un problème, on sait maintenant que c'est pas du tout une vision chrétienne, ou plutôt c'est le christianisme ou les pères de l'Église, des pères de l'Église, pas tous encore, des pères de l'Église qui ont adopté en fait la philosophie grecque, l'aristotélisme, le platonisme, au christianisme. Ils se sont servis de ces philosophies pour interpréter le christianisme. Et donc, ils l'ont interprété d'une certaine manière. Mais un François d'Assise et bien d'autres chrétiens nous ont montré qu'on pouvait l'interpréter d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus ouverte aux animaux et d'une manière beaucoup plus en phase avec l'Ancien Testament, avec la Genèse. Hein,
vous avez publié un petit ouvrage, d'ailleurs, aux éditions du Cerf, qui est justement...
Oui, qui s'appelle « Des bêtes et des dieux ».
Oui.
Et où je reprends, hein, c'est pas moi qui l'ai montré, du travail d'exégète des 30 dernières années, qui ont montré que dans les premiers livres, le Pentateuch, hein, les premiers livres de l'Ancien Testament, eh bien, la différence entre l'homme et les animaux n'est pas très forte. La grande différence, c'est entre Dieu et ses créatures. Ce n'est que petit à petit, dans la Bible, dans les derniers livres de l'Ancien Testament, et puis ensuite avec les pères de l'Église, qu'on va voir l'influence de cette philosophie grecque.
Grecque, oui.
Hein, et qui va instiller de fortes différences entre l'homme et les animaux. Ce qui n'est pas le cas au début dans la Bible. Hein. Cette vision-là, cette vision, on pourrait dire, franciscaine, pour que les gens comprennent, eh bien, elle peut maintenant nous inciter à regarder autrement les animaux. D'ailleurs, ça a été tout le sens de l'encyclique du pape François, oui. Loué sois-tu, en 2015.
Oui.
Hein, où justement, alors c'est une encyclique qui n'a pas été bien vue par les protecteurs des animaux, parce qu'il est vrai qu'il parle relativement peu des animaux par rapport au reste. Mais il y a quand même deux demandes absolument fondamentales. Un, c'est qu'il demande qu'on dissocie le christianisme, le message biblique, des philosophies qui l'ont un peu dévié. Hein, il emploie ce mot dévié et on voit bien à quoi il fait allusion. Il fait allusion aux philosophies grecques, donc je parlais.
Aristote en particulier.
Aristote
peut-être.
Et Platon. Oui. Hein, en particulier, il n'y a pas que, mais Aristote et Platon. Et deuxième demande, il dit les chrétiens doivent, c'est pas peuvent, hein, doivent se comporter comme François d'Assise.
Oui. Donc c'est la figure chrétienne de référence finalement aujourd'hui.
Ben, ce n'est pas pour rien que Jean-Paul II l'avait promu en 79 patron des écologistes.
Oui.
Hein. Et il l'avait fait parce qu'aux États-Unis à l'époque, il y avait un très gros écho vis-à-vis d'un article des années 60 d'un historien médiéviste américain. Cet article s'appelait « Les racines chrétiennes de la crise écologique ». Et pour lui, le grand responsable de la crise écologique actuelle, c'était le christianisme. Et en fait, cet historien avait en partie raison, en partie tort. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'en fait, il accusait une version du christianisme. C'est pas le christianisme. Oui. On aurait pu avoir un autre christianisme oui. majoritaire à la Saint-François d'Assise. Et donc, pour contrer ces critiques qui montaient très fortes aux États-Unis dans les années 60-70, Jean-Paul II, qui était très bien au courant, a promu François d'Assise, patron des écologistes. D'ailleurs, cet historien américain, à la fin de son article, dit nommément « Il n'y a qu'une exception dans le christianisme, François d'Assise ».
Oui, c'est reconnaître la part fondamentale de son apport.
Bien sûr, et donc Jean-Paul II avait, entre guillemets, si on peut dire, sauté sur l'occasion, et François a privilégié encore, est allé encore plus loin, hein, puisque les chrétiens doivent suivre François d'Assise, c'est pas si vous en avez envie de temps en temps, éventuellement, oui. si vous y pensez.
Oui. Hein,
c'est doivent.
C'est doivent, donc il y a presque une injonction.
Ah,
là,
mais c'est une injonction, c'est remarquable, et qui n'est pas encore... Alors ça commence à fuser petit à petit, bon l'encyclique a moins de 10 ans aussi, hein. Mais c'est un changement absolument remarquable. Et c'est vrai que ce changement-là, il aide aussi à mieux regarder la création.
Oui. Hein, dans sa diversité.
Dans sa diversité.
Dans une arborescence, finalement.
Exactement. Et surtout dans sa richesse.
Oui. Hein,
pourquoi mépriser, dévaloriser la création de Dieu? Hein, finalement, on était dans les chrétiens qui avaient repris ces philosophies grecques et romaines aboutissaient à une dévalorisation de la création. À part l'homme, le reste, il n'y avait pas grand chose. Mais pourquoi dévaloriser comme ça l'œuvre de Dieu? Dans la Genèse, il n'est pas dit que l'œuvre de Dieu est dévalorisée. Hein. Il y a là quelque chose de... Alors on comprend bien historiquement à quoi ça a permis, c'est-à-dire à mettre la main sur la nature, à l'exploiter, etc. Mais chrétiennement, théologiquement, il y avait là un non-sens, finalement, de dévaloriser à ce point-là ce que Dieu a créé.
Quelques notes de musique qui concernent un animal que vous avez étudié, Éric Baratet, vous allez le reconnaître bien sûr.
Le matou. Dialogue. Monserrata Vidal.
Éric Maratet, je disais tout à l'heure que cet animal, vous le connaissiez bien, vous lui avez même consacré un ouvrage, si je ne me trompe.
Oui, effectivement, le dernier ouvrage personnel qui est consacré au chat, en fait, à l'histoire comportementale des chats. On croit trop souvent que les animaux ont un comportement intemporel, éternel. L'homme changerait, mais pas les animaux. Alors qu'en fait, quand on veut bien regarder, ben on s'aperçoit que le comportement des animaux change. Et c'est normal, parce que une espèce ou des individus qui ne changent pas de comportement ne peuvent pas s'adapter à l'environnement qui change lui-même. On le voit bien avec le changement climatique actuellement. L'environnement a sans arrêt changé. Donc, pour qu'une espèce survive, il faut que ces individus s'adaptent et changent de comportement. Et donc, le chat qui a été compagnon des humains depuis très longtemps, ben, ces humains ont changé eux-mêmes. Eh bien, les chats, finalement, ont suivi, se sont adaptés au changement des humains.
Donc, le chat, qui n'a pas toujours été très bien vu, hein, notamment au Moyen-Âge. Mais vous nous parliez, avant cette parenthèse musicale, de l'influence qu'a eue la philosophie grecque, ou plutôt une partie de la philosophie grecque, sur la représentation que le christianisme a pu se faire du monde animal dans la création. Il y a pourtant, dans cet essai, un article qui est précisément consacré, non pas à la philosophie grecque, mais à la littérature grecque, ou plutôt à l'histoire grecque. C'est un article qui est consacré notamment à Plutarque. Est-ce que vous pourriez nous en parler, justement, Éric Baratet ?
Oui, parce que, évidemment, tout à l'heure, j'ai dit, c'est la philosophie grecque. Il y a les grandes figures de Platon et d'Aristote qui ont été christianisées par les pères de l'Église. Saint Augustin a christianisé Platon et Saint Thomas d'Aquin a christianisé Aristote. Aristote qui ne parlait absolument pas de Dieu. Et donc, il fallait, pour pouvoir l'utiliser comme instrument philosophique, il fallait montrer qu'il pouvait s'accorder avec le christianisme, et c'est ce qu'avait fait saint Thomas d'Aquin. Mais à côté de ces grandes figures philosophiques, il y en a eu beaucoup d'autres en Grèce, et certains n'étaient pas d'accord. Et donc, il y a des philosophes comme Plutarque, comme Pythagore et d'autres, qui avaient une autre vision des animaux, qui n'avaient pas cette vision hiérarchique du monde vivant et qui n'avaient pas cette idée qu'il y avait une forte différence de nature, ça c'est Platon, forte différence de nature entre l'humain d'un côté et puis les animaux de l'autre. Et donc, ces philosophes-là avaient une conception beaucoup plus riche du monde animal, leur attribuaient beaucoup plus de facultés. Et puis, ils avaient une écriture, du coup, aussi beaucoup plus riche. Parce que si vous considérez que l'individu qui est devant vous a des capacités, a une richesse, etc., vous ne pouvez pas employer un vocabulaire trop simple. Il faut avoir un vocabulaire qui montre, justement, cette richesse. Et on trouve ça déjà chez Plutarque, par exemple. Et on trouve ça ensuite chez bien d'écrivains. On trouve ça chez Montaigne, par exemple, oui. au XVIe siècle, où il y a la recherche de la... Comment dire ? Oui, de la richesse du vocabulaire pour montrer la richesse de l'être. Et ça, à l'inverse, ceux qui avaient une vision assez réductrice de l'animal... finalement, avaient un vocabulaire relativement pauvre, puisqu'ils étaient devant quelque chose de limité. Et donc, un vocabulaire volontairement pauvre, finalement.
Qui venait, finalement, exclusivement du vocabulaire très abstrait, somme toute, très conceptualisé de l'humain.
Oui, oui, bien sûr. En plus, alors, si on prend par exemple la question du langage, ça c'est quelque chose de très intéressant, parce que des gens comme Aristote, Platon disent que le langage est le propre de l'homme. Mais lorsqu'on voit leur définition du langage, c'est évidemment le langage humain. Évidemment, comme ils ont une vision du vivant, Aristote a une vision du vivant sous forme d'échelle ou de pyramide avec l'homme tout en haut, c'est lui qui arrive au langage, et donc le langage, c'est le langage humain. Résultat, si on regarde les autres animaux, on va dire qu'il n'y a plus de langage, évidemment. Si on définit le langage selon l'humain, si on va voir les chiens, il n'y a pas de langage. Si on va voir les chevaux, il n'y a pas de langage. Donc, on a une espèce d'appauvrissement des concepts, d'appauvrissement de la description, d'appauvrissement du langage qu'on emploie, de l'écriture qu'on emploie. Parce que finalement, on veut réserver la richesse à l'humain. Alors qu'on sait maintenant, alors les linguistes encore actuellement, il y a beaucoup de linguistes qui ont beaucoup de mal à accepter une extension du terme de langage. Mais là, il y a aussi, c'est très intéressant de voir, il y a un phénomène de génération. Les jeunes linguistes sont beaucoup moins réticents. Et puis, chez les éthologues, l'idée qu'il y ait des langages chez les oiseaux, les baleines, les chiens, maintenant, c'est quelque chose de tout à fait reçu.
Qui est beaucoup plus répandu.
Beaucoup plus répandu. Alors, évidemment, il faut faire une opération d'élargissement de la définition du langage. Si on garde la définition humaine du langage, ça ne peut pas aller. Si on dit que le langage, c'est avoir des mots et faire des phrases... évidemment, un chien n'a pas de mots, il ne fait pas de phrases. Mais ça, c'est une définition humaine du langage. Si j'ai une définition beaucoup plus large du langage, à ce moment-là, il y a plein d'espèces vivantes qui ont un langage. C'est une manière de communiquer.
C'est ce que vous montrez en abordant un aspect plus méconnu ou inconnu, qui est celui de l'écriture, Éric Baratet, à travers ses différents chercheurs, et ce sera plus particulièrement l'objet de notre second entretien. Je recommande à nos auditeurs la lecture de cet ouvrage passionnant qui s'intitule « Écrire du côté des animaux » et cet ouvrage est publié aux éditions Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup.
Merci.